Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne. Vous avez comme pas le choix ce matin, le groupe thématique, ça va être tombé ici sur le couple. Donc, si vous n'êtes pas en couple, en espérant que vous allez apprendre des choses sur la vie chrétienne. Et merci d'être là en ligne. Donc, il va y avoir une partie enseignement, ensuite d'animation avec André, ensuite enseignement, animation. On va alterner comme ça pour faire participer les gens. La dernière fois, c'était au mois d'octobre que j'avais animé un groupe thématique, c'était sur raviver la flamme dans le couple. Et on en avait vu la moitié. À la fin, on avait commencé par dire qu'est-ce qui éteint la flamme. Un petit peu décourageant, mais je vais juste les citer, qu'est-ce qu'on avait, question d'introduction, là, pour nous mettre en contexte, qu'est-ce qui peut éteindre la flamme dans un couple? On avait vu la malédiction de l'habitude, ça veut dire, pendant la fréquentation, tout est excitant, tout est nouveau, mais après quelques années, 4, 5, 6, 10, 20, 40, l'habitude vient éteindre la flamme. Ensuite, le faux sentiment de sécurité. On est marié, tout est correct, ça va bien aller, on continue, on passe à d'autres choses, le mariage est réglé. Okay? Donc, surtout pour l'homme. L'homme, il passe à autre chose des fois après le mariage. Ensuite, après le mariage, il y a toutes les responsabilités de ce qu'il faut faire, qu'on n'avait pas quand on était célibataire. La famille, les enfants, le travail, obligations, etc. Fatigue physique, on n'a plus 20 ans. Et quand on est plus fatigué, c'est là que les responsabilités augmentent. Les finances, c'est un gros point de dissidence ou de problème dans le couple, donc ça vient diminuer la flamme. On a aussi la façon d'éduquer les enfants. Monsieur est trop doux, madame est trop dure, ou le contraire, on ne s'entend pas. Difficulté d'ordre sexuel, c'est aussi un problème de divergence dans le couple qui vient éteindre la flamme. Donc, sur une note plus positive, on va regarder maintenant comment ranimer la flamme ou comment la garder. Je vais mettre mes notes ici. Bon. Comme époux, on ne comprend pas toujours que le sentiment amoureux du début, il va diminuer. Quand on tombe, il y a un genre de coup de foudre, là, quand on trouve le partenaire ou la partenaire que le Seigneur a choisi pour nous, là, c'est « wow ». Puis là, on se marie. Puis ça continue, cette effervescence-là, c'est cette flamme-là. Mais graduellement, sans qu'on s'en rende compte, on dirait que ça diminue. On ne comprend pas pourquoi. Et la flamme part toute seule. La flamme, elle arrive toute seule. On ne comprend pas pourquoi on est tellement en amour. Puis après ça, ça va encore toute seule. Puis on ne comprend pas encore pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait au début est parti. Et on va commencer par les hommes. Pour raviver la flamme, les messieurs, la première partie, ensuite on va parler des hommes. Pour raviver la flamme, il faut que votre femme soit toujours la priorité numéro un dans votre vie après le Seigneur. Bien sûr. Donc, nous connaissons tous le verset Éphésiens 5, 25, et je vais le lire. Il s'adresse au mari. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. C'est un gros contrat, ça. Hein? Aimer comme Christ a aimé son Église, il a lavé les pieds de ses disciples. On a vu avec Joël, je crois. Il est mort sur la croix pour nous. On le dit tellement souvent qu'il est mort sur la croix qu'à un moment donné, c'est comme on vient à l'habitude, mais c'est quelque chose. Il s'est sacrifié. Donc, on dit qu'il s'est livré lui-même pour elle, son Église, pour nous. Ensuite, ça continue au verset 26, « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, Jésus est mort pour nous, il nous a rendu saints, et il veut qu'on paraisse devant son Père irrépréhensible, sans péché. Donc, tout un contrat que Dieu nous donne en disant, « Hey, imitez Jésus. » Travaillez à ce que votre femme s'améliore, qu'elle soit transformée, comme Jésus travaille dans votre vie pour vous transformer. Et qu'est-ce qui nous transforme le plus? dans la vie chrétienne, c'est de connaître l'amour de Jésus. Il n'y a rien, moi, qui me transforme le plus que de réaliser quel point Jésus m'aime, quel point c'est fort son amour, quel point on est son enfant qui peut nous prendre dans ses bras, nous soutenir, même dans la pire épreuve. Jésus est là et nous aime. Et l'amour de Marie pour sa femme, ça va avoir un effet de transformation. Okay? Donc, on a entendu ce verset-là souvent, mais on manque trop souvent à ce commandement-là. Un autre verset dans Cantique des Cantiques, ça dit, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Bannière. La bannière, c'est une genre d'identification où comment il est. Comment il est? Qu'est-ce que je vois quand je le vois? Je vois l'amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Donc, son bien-aimé, qui ressort en premier lorsqu'elle voit son mari, c'est l'amour. En premier. Je vais vous dire quelque chose, messieurs, qu'il ne faudrait jamais oublier. C'est que votre femme doit savoir avec certitude qu'elle est unique et précieuse pour vous. Unique et précieuse pour vous. Dans Proverbe 31, verset 29, on parle de la femme vertueuse. Ça dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Quand vous avez choisi votre épouse, ben, c'était la meilleure. Il n'y en avait pas de plus meilleure, ça ne se dit pas. Hein? Vous avez choisi la meilleure, la plus grande, celle avec qui vous croyez que Dieu veut que vous passiez votre vie, 40, 50 ans, 60 ans des fois, et vous avez pris la meilleure. Et pourquoi à un moment donné, elle ne devient plus la meilleure? Donc, c'était celle que vous avez choisie. Elle est surpasse toutes, parce qu'elle surpassait toutes les autres, à ce moment-là, vous vous avez dit, hey, c'est elle qui me convient. Encore dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2, « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Un lys, c'est une super de belle fleur. Les épines, c'est pas tellement agréable à marcher là-dedans. Donc, il compare son ami, son épouse, a un lys au milieu des épines. Toutes les autres filles, c'est comme des épines. Tombe ses nerfs. Pas vrai, là. Mais tellement il l'a... Je ne dirais pas qu'il l'idéalise, mais tellement il l'aime, tellement elle est précieuse pour lui, que les autres, même s'ils sont belles et gentilles, il les compare à des épines. La comparaison est très, 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 très forte ici. Donc, savez-vous où Dieu a mis votre épouse dans votre cœur? Il l'a mis juste après lui. Comme en deuxième après lui. Et c'est facile. Ouais, c'est facile la mettre en application, la mettre en premier dans votre cœur après Dieu, si on reconnaît qu'elle est unique et précieuse. Et pendant les fréquentations, les gars, on n'a aucun problème avec ça. On a même la difficulté à la mettre après le Seigneur. Elle prend toute la place. On ne pense rien qu'à ça. Elle nous... pas qu'elle nous obsède, mais elle nous remplit, elle nous comble. Peu importe ce qu'on fait, on l'a tout le temps dans la tête. Et donc, on a de la difficulté même à la mettre après le Seigneur dans nos pensées. Es-tu fine? Es-tu belle? Es-tu gentille? On serait des heures à la regarder, à l'écouter. On est amoureux. Et quand on parle d'elle avec nos amis, on tarit pas d'éloges. Et c'est normal, on lui témoigne aussi beaucoup d'attention et d'affection. Et c'est normal qu'elle tombe en amour d'un homme qui est si gentil, si attentionné, si amoureux. J'en ai jamais vu d'autres qui étaient aussi amoureux que ça. Et on organise notre emploi du temps pour être le plus longtemps possible avec elle. Donc, elle se sent chérie, désirée, unique, précieuse. En un mot, elle se sent aimée. Maintenant, on se marie. Après quelque temps, l'homme fait quelque chose de terrible. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé. Mais il ne s'en rend pas compte. Et ce qui fait quelque chose, c'est que ça va la blesser. c'est qu'il change son ordre de priorité, où il est moins attentionné, moins présent, moins en amour, on dirait. Dans le fond, l'homme fonctionne par défi et conquête. Il a réussi à conquérir la femme de sa vie, la bien-aimée. Ça, c'est un défi. C'est réglé. C'est que je l'aime, elle m'aime, on est mariés. Donc ça, c'est comme, c'est réglé, ça. C'est réglé, ça ne dérangera plus, ça ne changera plus, ça. On passe à d'autres choses maintenant. Ben, il y a mon cercle d'amis que j'avais délaissé. Il faut quand même que je revoie un petit peu mes amis. Le travail, ben, le travail est exigeant. Ben, j'ai des loisirs aussi que j'avais délaissés. Il faut quand même un petit peu de loisirs. On ne peut pas toujours se regarder dans les yeux. À un moment donné, il faut faire d'autres choses. Mais j'aime encore ma femme autant qu'avant. Là. Je suis encore autant attaché. Mais il y a d'autres choses que je veux faire. Et les hommes ont été un peu... Dans notre cerveau, on est différent de celui de la femme. Nous, on a comme des boîtes, des compartiments. On a une boîte mariage, on a une boîte travail, on a une boîte conjoint, on a une boîte enfant, boîte loisir, boîte ami. Alors, on a toutes des boîtes, puis on ouvre une à la fois. Et là, on ferme celle du mariage, aujourd'hui, c'est le loisir. Alors que la femme, elle, toutes ses boîtes sont ouvertes en même temps. Toutes sont toutes ouvertes en même temps. Et le mariage, le travail influence le mariage, les enfants influencent le mariage, les loisirs, ça va avec le mariage. Il y a un livre qui existait, que je n'ai plus chez moi, ça s'appelle « Les hommes sont des gaufres, les femmes des spaghettis ». Les gaufres, c'est tout séparé en petits carrés comme ça. Et les hommes, c'est ça. Les femmes, spaghettis, c'est toutes les pâtes du spaghettis sont toutes interreliées. Donc, tu touches à une, tu touches à toutes les autres, ou presque. C'est une différence, vous pouvez la comprendre. Puis, pour ça, des fois, on ne se comprend pas dans le couple à cause de notre façon de voir les choses. Donc, après quelques années, l'homme de mariage, l'homme met plus d'énergie dans des choses qui concernent moins leur vie de couple. Si on lui demande, est-ce que tu aimes ta femme, ou si ta femme lui demande, est-ce que tu m'aimes encore? Bien, c'est sûr que je t'aime. La preuve... Je suis marié, puis je me dévoue, je consacre beaucoup de temps au travail, puis je m'occupe des enfants aussi, puis tout ça. Donc, pas facile de que votre femme sache, messieurs, que vous l'aimez tout le temps. Parce que des fois, par nos actes, on peut laisser penser qu'on l'aime moins. Et c'est un défi, peut-être le défi de votre vie, que vous réussissez à convaincre votre épouse que vous l'aimez, à condition que vous l'aimiez vraiment. Je vais vous lire une petite citation ici. C'est M. John Gray qui a écrit un livre qui s'appelle « Plusieurs ». Ici, c'est dans « Mars et Vénus sur le chemin de l'harmonie ». Bien, « Mars et Vénus », c'est parce que c'est comme si les couples venaient de deux planètes différentes. C'est pour ça. C'est ça qui emploie deux planètes. Là. Il dit « Dans l'esprit d'un homme, une femme comblée n'a aucune raison de cesser de l'être. » Une fois qu'il lui a prouvé son amour, il n'estime pas nécessaire de le lui rappeler et de le rassurer sur ses sentiments. Il le dit, puis il l'aime. Rien n'est plus éloigné de la réalité féminine. Une femme a besoin de s'entendre répéter qu'elle est unique et digne d'amour. Pour se sentir aimée, il lui faut des signes, des symboles et de constante assurance verbale. Ou rassurance verbale. Donc, la femme a besoin de petits gestes, de petits cadeaux, de petites choses qui vont la rappeler qu'on l'aime, des attentions, un sourire, un compliment, choses comme ça. Okay? Et il y a tellement de besoins urgents après le mariage, on dirait qu'il y a plus de choses à faire, et elle devrait comprendre qu'il faut que je sois occupé à plus d'autres choses. Oui, peut-être que je dois changer. Mon temps doit être organisé différemment, mais il faut que je continue quand même à entretenir cette relation-là avec mon épouse. Et si elle passe en troisième dans ma vie, donc il y aurait le Seigneur, ensuite c'est le travail, ensuite c'est elle, là elle va dire, bien, t'en fais trop. Et vous devez attendre ça de votre monsieur, votre femme vous dit, t'en fais trop. Vous devrez apprendre à dire non. J'ai déjà entendu ça, moi, je pense. Des fois, oui, on ne réalise pas, mais on en fait trop. Il y a tellement de choses, surtout comme chrétien dans l'Église, tellement de besoins. Tu devrais apprendre, mais non, c'est l'œuvre du Seigneur ici. C'est de dire non. Donc, nous devons être sensibles à ce qu'elle vit, réaliser l'importance de ce que notre épouse ressent, apprécier ce qu'elle fait, puis lui dire. Des fois, on apprécie beaucoup de choses, mais notre épouse, non, on ne lui dit pas. Je suis content que tu aies fait ça, je l'apprécie. La complimenter. Comment on la complimentait au début? Maintenant, on la complimente moins. Elle est toujours aussi belle, toujours aussi fine. On la complimente moins. Être poli et courtois. Mais mon épouse m'a montré comment être poli. Je ne savais pas comment être poli. Alors, c'est ça. Une fois que j'ai sorti avec, j'ai fermé la porte de Turel. Mais je pensais que c'était comme ça. Je ne connaissais pas beaucoup comment agir avec les filles. J'ai été éduqué là-dessus. On a vu tout à l'heure que le Salomon compare sa bien-aimée à un lys. Un lys au milieu des épines. Un lys, c'est vraiment une belle fleur. C'est délicat. C'est un cadeau de Dieu. Et quand on prend un lys, on ne le ramasse pas comme ça. Un lys, là, tu sais, toutes les pétales vont froisser. Donc, c'est vraiment... Autant c'est beau, autant c'est fragile. Okay? Donc, il faut traiter notre épouse comme ça. Donc, elle a besoin de tendresse, d'attention, plusieurs petits gestes. Nous, les hommes, on fait quelque chose de gros. Faites un gros cadeau, faites une grosse vacance. Là, on dit, bon, ma femme est comblée pour 3 mois. Donc, la femme, elle a besoin de plusieurs petits signes qui vont la rassurer tout le long du chemin. Quelqu'un disait, un homme donne un cadeau de 1 000 $, il dit, ma femme est comblée pour 3 mois, et la femme, elle, va avoir 1 000 cadeaux de 1 $. Donc, ça fait, vous voyez un peu, plusieurs petites choses. Et nous, on pense comme des gars, mais essayez. C'est bon de savoir comment Dieu a fait notre épouse. Et un petit cadeau, ça veut dire, ou un petit coup de téléphone, quand ça ne t'attend pas, ça veut dire, « Hey, j'ai pensé à toi, tu n'étais pas là, mais j'ai pensé à toi. » Ah, il pense à moi, même si je ne suis pas là. Okay? Chose aussi, votre épouse, la façon de lui donner des conseils. Supposément, votre épouse arrive du travail, elle est exténuée, mais ça n'a pas bien été avec son patron. Son patron a été injuste avec elle, puis ça n'a pas bien, vraiment bien été, puis elle arrive en pleurs. Et là, elle vous compte ça. Nous, les hommes, on est des réparateurs. Moi, à ta place, là, je dirais ça, puis je ferais ça, puis demain, là, arrange-le ton patron. Mais c'est pas ça qu'elle veut savoir, elle. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est être comprise. Donc, notre rôle, c'est d'écouter. Elle pleure. Oups, puis elle dit ça. OK, ça t'a fait ça? Oui. J'ai-tu bien compris? Oh boy. Je comprends que tu pleures. Je comprends que tu es démolie. Et votre femme va être restaurée jusqu'à un certain point. Le fait qu'il y a quelqu'un qui comprend vraiment qu'est-ce qu'elle vit. Parce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, le fait que vous la compreniez, ça va l'aider. Si elle a besoin de conseils, elle va vous le demander. Bien, les hommes, on est portés à donner des conseils très, très vite. Certaines femmes aussi, à leur mari, peuvent faire ça. C'est toujours notre tendance. Et dans la relation d'aide, quelqu'un arrive avec quelque chose, souvent, au lieu de la comprendre, on va dire « tu devrais faire ça ». Ça ne marche pas, là. Il faut que la personne soit comprise. Donc, une femme donne sans cesse, et par nature, une femme est, comme avec les enfants, là, elle donne beaucoup. Elle est habituée à donner aussi à son mari, et par nature. Et elle s'attend que l'homme va donner aussi. Mais nous, on n'est pas toujours porté à donner autant qu'elle dans son instinct maternel. Donc, quand l'homme ne donne plus la même attention qu'au début, la relation à sa femme, il pense qu'il n'est pas heureux avec elle et qu'il ne l'aime plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça dépend de l'attitude de l'homme. C'est bon à savoir qu'il faut continuer à cultiver. Comme un jardin. Les mauvaises herbes, pas besoin de les faire pousser, hein, ils poussent toutes seules. Okay? J'ai terminé pour les hommes. Tantôt, ça peut parler aux femmes. Donc, Dieu a créé la femme avec un besoin d'être aimée. Et Dieu a créé l'homme aussi avec un autre besoin. Et si les femmes peuvent combler ce besoin-là, ça va aider beaucoup. Je ne parle pas de la sexualité. Bon. Je réserve la surprise. Je laisse André
à suivre. Alors, bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, on est prêt à... Vous comprenez le principe un peu des thématiques? C'est quoi le but des thématiques? Quelqu'un peut faire un petit rafraîchissement, là? C'est quoi? Des échanges, c'est ça. C'est ça le but un peu. Partager entre nous autres, apprendre à mieux se connaître. Donc, quand je vais interagir, comme là, la première partie, je vais interagir plus avec les messieurs. Les dames, ça va venir, votre tour va venir, faites-vous en pas. Donc, je vais interagir plus avec les messieurs. Et puis, je vais vous demander au début de donner juste votre prénom. Prénom, peut-être nom, là, vous verrez. Pour qu'on puisse mieux se connaître. Donc, ce qu'on a vu, c'est que au tout début, on tombe facilement... est-ce qu'il y en a qui ont déjà tombé en amour, les gars, là? Vous êtes très gênés. Pas plus que ça, non? Jamais tombé en amour, Régent. Hein? Ah, ben, tu l'as baissé vite. OK. Tombé en amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme, qui aimerait nous donner un exemple de comment il a été intense, jusqu'à où il était capable d'aller pour prouver à sa future ou à sa bien-aimée de combien il l'aimait? Il était prêt à faire quoi? Un exemple. Il était prêt à faire quoi? Juste ton prénom?
Moi, c'est Marc. Marc. Ça faisait quelques années que je sortais avec mon épouse, puis on s'est un petit peu laissé de côté quoi que ce soit. Puis, on est encore en amour, mais à cause de la belle-mère dans le temps, où c'était difficile les communications avec la belle-mère, où ce qu'elle amenait beaucoup de choses, j'ai entendu dire que Louise, elle disait, « Mais je l'ai faite pour ma mère. » Puis, j'étais en train de travailler, puis il y a quelqu'un qui avait organisé quelque chose, puis j'étais au travail, puis j'ai reçu un téléphone dans ce temps-là. J'ai dit à mon boss, « Faut que je parte, je m'en vais, faut que je rencontre quelqu'un. C'est une urgence. » Pour trouver Louise, en fin de compte, puis depuis ce temps-là, on était ensemble.
Puis ton patron, t'en veux pas trop. Ben, t'étais prête à lâcher, bien, rapidement, là, t'es parti, là, parce que c'était plus urgent, c'était plus important. Fait que ça, c'est... Marc, est-ce qu'il y en a un autre qui aurait quelque chose à nous dire? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour démontrer jusqu'à combien il aimait sa future? Son épouse, ou peut-être sa blonde à l'époque, là, je sais pas. Jusqu'à où tu étais capable d'aller? Oui, ton prénom?
Mon prénom, Arnaud. Oui, jusqu'à où j'étais capable. À un moment, j'avais beaucoup de conquêtes. Et il était question de se stabiliser. Elle a dit, bon, OK, il va falloir choisir. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt peut-être chez d'autres. Et il a fallu que je mette fin aux conversations, à toutes les discussions que j'avais avec d'autres conquêtes, pour dire OK, je vais me limiter seulement à elle. J'ai arrêté, les numéros sont supprimés, je n'ai plus de contact avec elle. Voilà, je suis seulement avec toi.
OK. Et c'est Arnaud, hein?
Oui.
Tu as utilisé le mot j'avais beaucoup de conquêtes. C'est ça, si j'ai bien compris. OK. Mais t'as fait t'as tout supprimé, toutes les autres. C'est bon. Quelqu'un d'autre qui aimerait nous partager qu'est-ce qu'il a vécu d'intense? Il était prêt à faire quoi, là? Décrocher la lune? N'hésitez pas, là. Soyez pas gênés, on est en famille. C'est bon? Martine, tu peux pas parler, Martine. C'est tout à l'heure. Bon, OK. Pour que votre femme se sente vraiment aimée, elle doit savoir avec certitude qu'elle est unique et précieuse. C'est ce qu'on a vu avec Yvan. Elle doit savoir, là, sans aucun doute, qu'elle est unique et précieuse. Comment, messieurs, comment est-ce que vous faites Comment vous faites pour avoir la certitude que votre femme elle comprend, elle est sûre qu'elle est unique et précieuse? Donnez-moi vos secrets, j'ai besoin de savoir. Comment vous faites pour être certain que votre femme, elle sait qu'elle est unique et précieuse? Oui, Marc.
Unique et précieuse. Quand on s'est marié, j'ai fait la promesse à Dieu de l'aimer toute ma vie. À une seule et unique personne, Christ dans notre vie. Si je n'ai pas ça, ben, je ne peux pas l'aimer toute ma vie, en fin de compte. Puis j'ai une crainte de Dieu. Je suis aimé de Dieu. J'ai fait cette promesse-là à Dieu de l'aimer toute ma vie. Mon père avait toujours cette expression-là qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut. » C'est une vieille expression, mais c'est la promesse que j'ai faite de l'aimer toute ma vie, qui nous accompagne dans ce chemin-là toute notre vie. Puis ça fait 50 ans qu'on se connaît. Puis c'est cette promesse-là qui montre qu'elle est unique à moi. C'est que j'ai promis à quelqu'un de très puissant et très grand.
Parfait. Merci. Alors, quelqu'un d'autre qui aimerait nous partager? Oui, Christina, on va te donner le droit, là. On va te le donner. Mais c'est supposé être Benoît qui parle. Ben, vas-y.
Je vais parler de lui parce que vraiment, ça a fait une grosse différence dans notre relation de couple au niveau de qu'est-ce qui a fait que je me sente aimée de lui. C'est qu'à un moment donné, on a commencé juste à parler à tous les matins quand les filles s'en allaient à l'école et on jasait. Ils restaient à la table, on prenait notre café ensemble et à ce moment-là, 15 minutes, ça me suffisait. Je repartais, ça a pris quelque temps, mais juste ce petit geste et le temps qu'on passait ensemble, là, où il m'écoutait vraiment, j'avais le droit de pleurer, d'ouvrir mon cœur, de dire ce que j'avais à dire. Et au fur et à mesure là, que les mois et les années avançaient, bien, c'est comme si ça me... Moi, dans mon cas, là, qu'il m'écoute et que j'ai son attention... Ça a vraiment changé de quoi dans le fond de moi-même. Et je me sentais plus sécure dans notre relation. Alors ça, c'était mon histoire, notre histoire. Et ça continue maintenant. C'est bien plus que 15 minutes. C'est des heures de temps. Alors, moi, je serai toujours reconnaissante au Seigneur. Je crois que c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous et qui a parti cette balle-là, si tu veux, de l'écoute et de développement de la relation, là.
Oui. Mais c'est bon. Benoît, j'imagine que tu es d'accord avec ça?
Je ne peux pas être.
OK. C'est bon. Oui. Oui.
Juste rajouter que c'était pas naturel pour moi de faire ça. Donc, j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'aider. Parce que c'était... Je ne sais pas pourquoi exactement, là, mais j'avais une difficulté énorme. Mais sachant qu'elle avait besoin de ça, et là, je demande au Seigneur de m'aider, puis tranquillement, j'y ai même pris goût. Et ça, c'est le miracle que le Seigneur peut opérer dans nos cœurs. Quand il y a quelque chose qu'on n'est pas habitué avec ça, on n'a pas été élevé de même, peu importe là, pourquoi, mais par la grâce de Dieu, en se tournant vers lui, puis en lui demandant son aide, non seulement il nous aide à supporter ça, dans le sens qu'au début, c'est pénible, mais... éventuellement, on y prend goût. Et ça, c'est quelque chose... Et là, maintenant, j'en ai besoin. Dans le sens que je ne peux pas... Moi, je ne peux pas supporter le fait qu'on ne peut pas avoir ce genre de communication, de relation, parce qu'il arrive des fois des choses. Je suis toujours responsable quand ça arrive. Et par la grâce de Dieu, là, je ne peux pas supporter ça longtemps. Ce qu'autrefois, je pouvais supporter pendant longtemps, là. Malheureusement.
Bien, merci beaucoup, Benoît. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager par rapport à ce point-là? Ça va? Tout à l'heure, on a vu, je voulais juste savoir, est-ce que c'est vrai l'histoire de l'ordre que, avec le temps, l'ordre de nos priorités peut changer ou va changer. Tu sais, la priorité, c'est Dieu. Ensuite, c'est notre épouse. Puis ensuite, mais c'est notre boîte de pick-up ou je sais pas, d'autres affaires après. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette affirmation-là qui dit que l'ordre de nos priorités peut changer? Les gars. Gênez-vous pas, là. Juste savoir si vous êtes d'accord ou pas avec l'affirmation. C'est vrai? C'est pas vrai? C'est une belle théorie, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Réjean, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? C'est vrai que l'ordre pourrait changer? Dis-nous un peu plus. Oh! L'ordre pourrait changer.
Est-ce que, dans ton cas, est-ce que ça a changé?
Bien, il y a des choses qui changent. Sur 46 ans, là, c'est sûr qu'il y a des affaires. Ça peut changer.
OK. Tu valides l'affirmation. C'est bon? OK. Oui, Marc?
Ça a toujours été mon épouse, ma famille, mais ça a toujours été Dieu en premier pareil. Est-ce que ça a changé? Ça a toujours été la même vision. Ça a toujours été Dieu, mon épouse, la famille. Ça a toujours été ça.
Bien, ou qu'on pourrait dire qu'on s'est éloigné, c'est au fil du temps, en ayant une famille, plusieurs enfants, on en a 4. Bon, j'aurais aimé dans les 4 avoir un artiste, un musicien, mais ils étaient tous sportifs. Donc, on a couru les terrains de soccer, les arénas, fait qu'on a suivi quand même nos enfants. À ce moment-là, on passait beaucoup de temps. C'est là que le Seigneur, il avait moins de place. Mais il était toujours là quand même. Mais tu vois ça un peu comme selon ta question. Là, c'était beaucoup la famille qui prenait beaucoup de notre temps, mais il fallait vraiment s'arrêter pour dire non, Seigneur, c'est toi, là, pour revenir à toi.
Oui. Mais c'est bon, c'est bon. Donc, l'ordre des priorités, ça peut glisser un peu. Il y a des périodes où, mettons, exemple, quand tu construis ta maison, pour ceux qui ont fait de la construction, là, mais durant cette étape-là, peut-être que toute l'énergie va là. Hein? Puis là, après ça, bien, ça se rétablit un peu. Mais on dirait que momentanément, il peut y avoir l'ordre des priorités qui va changer un peu. Même des fois, par rapport à Dieu, dans un gros projet comme ça, des fois... Ça peut impacter un peu notre relation avec Dieu. Messieurs, comment aurait réagi votre épouse quand elle se rend compte qu'elle n'est plus la deuxième après Dieu? Peut-être qu'une épouse pourrait répondre aussi. Là, je demande aux gars, là, comment a réagi ton épouse? Mais aussi une épouse pourrait aussi nous partager comment elle s'est sentie quand elle a vu qu'elle n'avait plus la deuxième place après Dieu. Oui.
En fait, justement, avant qu'on commence, qu'est-ce qu'on a commencé à faire pour améliorer notre vie de couple, une des choses qui s'est passée, puis que là, je m'en suis aperçu, c'est que dans le fond... Elle vivait une grande tristesse et elle a eu le courage de m'écrire une lettre. Elle ne pouvait pas m'en parler directement, mais elle m'a écrit une lettre que j'ai encore. Que quand je la relis, je suis tout le temps brisé. Parce que là, j'ai vu son âme, son cœur. Et là, je voyais à quel point j'étais pas là pour elle. Et ça, ça a été un moment décisif, là, un point tournant dans un sens. Donc, je dirais, c'est quand elle m'a ouvert son cœur, même si elle l'a fait à travers une lettre, mais c'était clair qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, là. Et c'est ça. Alors, Seigneur, encore là, s'en est servi. Et, voilà.
C'est bon. Des fois, il y a des choses comme ça qui... c'est de dire la chose, hein, l'inconfort, ou c'est difficile. Moi, ma fille, Léonie, quand elle était plus jeune, elle me demandait souvent d'aller au parc avec elle. Puis des fois,
Je disais que j'étais occupé à faire d'autres choses. Mais à un moment donné, elle m'a écrit une lettre, un peu la même affaire. Elle m'a dit, papa, je t'ai demandé, elle mettait des dates. Telle date, je te l'ai demandé, puis elle t'a dit non. Puis là, il y avait tout. Fait que là, wow! Là, j'ai réalisé que pour elle, c'était important d'aller au parc, prendre du temps avec elle, jouer dans ce qu'elle aimait jouer. Fait que, heureusement, elle s'est exprimée par l'écrit. Puis aujourd'hui encore, elle tient toujours un livre pour écrire ses émotions, qu'est-ce qui se passe dans sa journée. Elle est en train d'écrire même un livre, une genre d'autobiographie. Je n'ai lu ses deux premiers chapitres. Là. Elle est en train d'écrire ça, un livre sur qu'est-ce qu'elle a vécu. Donc, ça, c'est bien. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient interagir par rapport à ça? Peut-être une femme aussi. Comment tu te sens quand que tu vois que tu n'es plus à la première place, mais à la première place après Dieu? C'est bon? Est-ce qu'il y en a des messieurs qui aimeraient nous partager un de leurs secrets de comment ils peuvent signifier à leur femme qu'ils l'aiment toujours. Comment ils font pour manifester à leur femme qu'ils l'aiment toujours? Comment vous faites ça en pratique? Un gros cadeau? plusieurs petits cadeaux du Dolorama? Comment vous faites en pratique? La réalité, là. Je vais aller chercher quelqu'un, là. Moi, je veux savoir comment vous faites. Jason? Peut-être que j'ai mal dit ton nom. C'est...
Jason, ouais, c'est bon.
Jason.
Ben, moi, je pense un peu avec Dieu, je pense que ça passe par l'obéissance, puis c'est de même qu'on démontre notre amour parce qu'elle nous a aimés, puis en voulant la servir comme qu'on veut servir Dieu, c'est comme ça qu'on va démontrer son amour. Ouais.
OK. Merci. C'est bon. Juste avant qu'on aille dans la deuxième section, un peu en introduction, messieurs, est-ce que vous croyez que vous avez besoin d'être admiré? Qui a dit oui? J'ai entendu oui. Tu as dit que un homme aime ça être admiré. Ben oui, ça a l'air tellement évident. Ben oui, parle fort. Approche-toi en avant, puis parle fort. Ton nom? C'est lui qui te le prépare.
Oui, c'est lui qui me le prépare parce que je ne sais même pas faire de café.
Oh! Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres hommes qui aiment ça être admirés, qui sont capables de dire oui, c'est vrai, j'aime ça être admiré? Pierre, vas-y.
Un thème peut-être plus approprié que admirer, ça serait peut-être cajolé. Okay? L'homme être cajolé dans le sens d'être encouragé. Voyez-vous? Comme moi, dans la vente, là. J'avais suivi une formation avec un test là, qui coûtait plusieurs milliers de dollars, puis il disait que, dans mon cas, moi, de travailler en solitaire, c'était pas bon parce que j'avais besoin de cajolement. C'est-à-dire que j'avais besoin de travailler avec une équipe. Et vous? Fait qu'il y en a, d'un exemple, lui, va être plus à l'aise de travailler tout seul. Tandis que d'autres, en exemple, c'est ça. Puis j'ai essayé de travailler tout seul, puis ça ne fonctionnait pas. Et oui, c'est ça. Fait, effectivement, c'est le ce qui me convenait à moi, là, c'est d'être entouré, c'est de ressentir, là, d'être cajolé, voyez-vous, d'être encouragé, de recevoir des félicitations, c'est de voir que je participe avec d'autres. Fait, pour moi, là, c'est plus approprié qu'admirer, qui est un grand terme.
Mais le vrai mot, là, c'est admirer, Pierre. OK, OK. Mais là, il y a... Mais tu veux être cajolé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ton mari? Ah, je vais te laisser la parole.
Mon mari, ce matin, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Joanne, le sage Champagne. Mon mari, justement ce matin, Joanne dit... J'ai besoin de te demander quelque chose. Bien, vas-y. Bien, là, il dit, tu penses-tu que, bon, j'aime ça, je commence à être plus ouvert, puis être plus en relation avec mes frères, puis tout. Hey, j'ai dit, wow, merci Seigneur. Fait que là, il me dit, c'est juste pour vous dire que mon mari, il aime ça être encouragé, puis il aime ça quand je l'encourage, puis on prie ensemble.
Parfait. Cajolé, admiré. Encouragé. Se faire dire merci. Il aime ça se faire dire merci. Ouais. Mon wow. Merci de m'aider la maison. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Je te donne la parole, Yvan.
Merci. André a bien introduit la deuxième partie. C'est ça, vous l'avez deviné, le besoin de l'homme, c'est ça, d'être soutenu, encouragé. J'avais mis dans mes notes « admirer » aussi. Je crois que des épouses peuvent admirer leur mari pour les qualités qu'il a ou pour tout ce qu'il fait. Donc, dans le cœur de chaque homme, il y a comme un, pour être romantique, un prince charmant. Il veut charmer sa princesse. Puis, il veut être un héros pour sa princesse, il veut être quelqu'un spécial pour elle. Ce n'est pas juste le fait qu'il l'ait conquise, mais c'est que dans tout ce qu'il fait à chaque jour avec elle, il aime ça savoir que oui, il est à la hauteur. Il est capable de le faire. Et c'est pour ça que c'est bon que la femme le soutienne, l'encourage. Et ce n'est pas un gros bébé qui dit hey, « je veux être admiré ». Non, c'est Dieu qui a créé ça en lui. Que l'homme a ce besoin-là, mais d'être encouragé. Si l'homme n'est pas valorisé, encouragé, il va avoir de la misère à être l'homme que Dieu veut qu'il soit. Donc, si l'homme est encouragé, admiré, ça lui donne confiance en lui-même. Ça le pousse à aimer celle qui l'encourage et qui l'admire. Supposément, on sort de la relation de couple, il y a une personne qui me dit, « Toi, Yvan, là, t'es bon, t'es l'affaire. » Toutes les fois qu'il me voit, là, il me trouve que je suis bon. Ben, je vais pourtant aller voir cette personne-là. Je vais être... La présence va être agréable, ça me fait du bien. Les personnes qui me critiquent, « Oh, ouais, je vais y aller quand même, des fois par obligation, mais je suis pourtant à les fuir. » Et je suis moins bien à leur présence. Donc, on est bien à la présence de quelqu'un qui nous soutient, qui nous encourage, qui voit nos efforts. Et si cette personne-là nous encourage, de l'autre côté, ça va être plus facile de l'aimer. Vous voyez, ça va être plus facile, ça ne sera pas difficile de l'aimer. La Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3, c'est la bien-aimée, la femme qui parle, elle dit, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. » Donc, son bien-aimé se distinguait. L'homme, il disait, lui, elle est comme un lys au milieu des épines. Et la femme, elle dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Et ce n'est pas habituel, un pommier dans le bois. Moi, j'ai essayé d'en planter, j'ai une terre à bois. J'en ai planté quatre espèces différentes de pommiers. Ils sont tous morts. Le seul qui n'est pas mort, il y avait une pomme, puis c'était un raton laveur qui l'a cassé pour manger la pomme. Fait que c'est très, très difficile de faire mettre des pommiers dans... à travers un arbre de la forêt. Ça peut arriver, il y en a. Donc, puis un pommier, c'est un arbre que tu peux goûter, des fruits. Il y a des fleurs le printemps, au mois de mai, des fruits. Donc, il est différent des autres. Il est exceptionnel. Il n'est pas comme les autres. Il est beau. Il porte du fruit. Tu es comme un pommier. Et parmi les autres hommes. Ensuite, il dit, oh, regarde, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. Donc, lorsqu'elle les compare même aux jeunes, aux beaux jeunes hommes, elle trouve encore qu'il est encore mieux. Okay? Donc, tu es comme un pommier, même si les autres te pensent beau, là, ils sont jeunes. Tu es un pommier. Ensuite, ça dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Donc, ici, on parle de l'ombre du pommier. C'est quoi? La protection. Hein? En Israël, il faisait chaud, donc l'ombre du pommier était nécessaire. J'ai désiré m'asseoir. M'asseoir, c'est on se repose, on relaxe. Hein, avec toi, j'ai la protection, je suis relax. Et j'ai désiré m'asseoir. Désiré. Donc, elle a le désir de se rapprocher. Et donc, elle désire être avec son mari. Elle ne le fuit pas. Donc, c'est agréable. Et le dernier le bout de phrase, ça dit, « Et son fruit est doux à mon palais. » Donc, tout ce qui vient de lui, c'est la douceur. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus? Si sa femme lui dit, « Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu me protèges, je suis en sécurité quand tu es là. Je suis bien en ta présence. Ce qui vient de toi, c'est doux et agréable. Tu me protèges. » Et, comme il disait, l'homme a besoin d'être un héros, et le fait de sentir qu'il est à la hauteur, qu'il protège sa femme, qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il est à la hauteur avec ses enfants aussi, qu'il la protège de la belle-mère, des fois, toutes les influences extérieures, qu'il la protège des gens, des amis, ou même des chrétiens, des fois, qui pourraient être désagréables, il est là pour la protéger. Encore une citation de M. John Gray. Ici, c'est dans son livre... Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Quand une femme montre à son partenaire qu'elle a confiance en lui, qu'elle l'accepte, qu'elle l'apprécie, qu'elle l'admire et qu'elle l'approuve, elle l'encourage à fonctionner au maximum de ses capacités. Comme ça le booste. Ça lui donne le maximum de ses capacités. Là. Plus il est valorisé, plus il va fonctionner. S'il est dévalorisé, il va être comme un petit chien. Un petit chien battu. Aussi pire, là, mais c'est la tendance. Le problème, c'est que, mesdames, c'est que votre mari, il n'est pas parfait. Hein? Si vous aviez tous des maris parfaits, ce serait facile de lui dire, t'es le meilleur, t'es bon, tu me protèges, je suis bien avec toi. Mais votre mari n'est pas parfait, puis il a besoin de changer. Il a besoin de s'améliorer pour que vous puissiez l'admirer. Et vous croyez que votre mission dans le couple, c'est de changer votre mari. Vous savez, votre mission, et lui dire ce qu'il devrait faire, et comment il devrait le faire, puis comment il devrait penser. C'est l'autre côté de la médaille, vous voyez. Donc, beaucoup de femmes croient aider leur mari en essayant de l'améliorer, mais inconsciemment, ils neutralisent même sa masculinité, son désir de changer. J'avais une femme qui me disait qu'elle avait eu plusieurs conjoints. Et elle disait, aussitôt que je l'ai mis à ma main, je ne l'aime plus. Elle voulait le changer. Aussitôt qu'il était changé, peut-être comme elle voulait, bon, il est rendu plate, là. T'sais? Donc, admirons les différences. Donc, attention, mesdames, à vos attentes. Souvent, la femme va remarquer plus qu'est-ce que le mari ne fait pas que ce qu'il fait. Elle va remarquer ce qu'il doit changer que ce qu'il y a de bon. Parce que ça l'agace. Ça l'agace, c'est sûr que c'est agaçant. Et elle veut changer. Donc, elle lui fait remarquer qu'il n'est pas assez démonstratif, il n'est pas assez présent, il n'est pas assez attentif, il n'est pas assez romantique. C'est un homme que vous avez marié, ce n'est pas une femme. Tu sais, des fois, on veut qu'il y ait des qualités d'une femme, tu sais. Oui, l'homme doit être démonstratif, doit être présent, doit être attentif, mais c'est plus difficile des fois comme Benoît, il a dit tantôt que c'était un combat pour lui d'écouter sa femme qui parlait 15 minutes le matin. Parce que lui, il avait d'autres choses à faire. Donc, il fallait qu'il fasse un effort. Et pour l'homme, des fois, c'est un effort d'être attentif. Alors que pour une femme, ça ne l'est pas. C'est un besoin d'écouter, de relationner. Okay? Donc, vous n'avez pas marié une femme, mais les hommes doivent apprendre à changer aussi. C'est des deux côtés. Ça ne veut pas dire que votre mari n'appréciera pas vos conseils, parce qu'il a besoin de le savoir. Comme Christina, elle avait écrit à Benoît pour lui dire, regarde, c'est ça qui se passe. Donc, oui, dites-lui. Il faut que vous lui dites, parce que les hommes, on ne sait pas tout. Et il devrait donc le savoir, mais c'est pas qu'il ne sait pas. Non, l'homme, il y a des choses qu'il ne sait pas, parce qu'on n'est pas une femme. Okay? Et habituellement, l'homme peut s'améliorer sur certaines choses que vous allez lui dire, mais il se demande si un jour ça va être suffisant, parce que sa femme ne semble pas la remarquer. Et il a peur de jamais être à la hauteur, puis quand il voit qu'il n'est pas capable et que sa femme ne le remarque pas, bien là, il baisse les bras. Ça, c'est encore pire. Il décourage. Donc, j'encourage, mesdames, aussitôt que vous voyez une petite amélioration, dites-le. Comme avec nos enfants, souvent, on est porté à les critiquer, les reprendre, mais quand on voit qu'ils font bien, il faut le souligner, il faut l'encourager. Ça va l'aider à faire encore plus. Même chose avec vos maris. Donc, difficile de l'admirer si vous voyez seulement ses défauts, ses manquements. Mais à chaque défaut, il y a une qualité correspondante. Supposément, votre mari il est dur, bon, ben, c'est un homme tenace. Okay? Il est obstiné, c'est un fonceur dans la vie. Il est mou, ben, il est doux. Il parle beaucoup, il est sociable beaucoup. Et je ne la connais plus, c'est longtemps que je l'ai vu, une madame dans un camp. Elle, ce qui l'avait attiré chez son conjoint, c'était que lui, il parlait. Elle avait parlé beaucoup. Lui, il n'avait pas de misère à parler, très, très, très sociable, puis tout ça. Après quelques années de mariage, là, il tombait ses nerfs. Il parlait trop, puis elle ne pouvait pas parler, puis elle n'avait pas sa place. Vous voyez? Donc, si votre mari, vous voyez un défaut, essayez de voir la qualité correspondante. Un homme n'est pas parfait, mais s'il se sent respecté et valorisé, il deviendra la meilleure version de lui-même. Et les hommes parfaits, il n'y en a pas. On est tous différents. Et Dieu... On voit dans le proverbe, le fer aiguise le fer, et le mariage, c'est pas un endroit pour te couler douce, c'est un endroit pour se frotter et grandir. Le mariage nous fait grandir. Et quelqu'un disait, des fois, le mariage, ça fait sortir les bugs qu'on a, qu'on n'avait pas vus en se mariant, alors, pour nous confronter à un autre, pour mettre nos vies ensemble. Et ça peut être difficile. Et si on voit le taux de réussite des mariages, les divorces, séparations, ça en dit long. Donc, il y a le phénomène de la caverne aussi. Une minute. Supposément, vous vivez un problème ou votre mari vous avez un problème. Le mari, lui, bien souvent, il n'est pas capable d'en jaser tout de suite. Il faut qu'il aille à part dans sa tête, qu'il réfléchisse à tout ça, qu'il prie là-dessus, puis qu'il pense, puis qu'il essaye de trouver une solution. La femme, elle veut en parler tout de suite. Parce qu'elle, en parlant, ça l'aide à réfléchir, à mettre les choses en place. Alors que l'homme, lui, moi, je suis comme ça, je vis de quoi de difficile, j'ai de la misère, je suis capable d'en parler quand je vois une issue. Là, je suis capable d'en parler. Ouais, je commence à comprendre, là. Mais la femme, elle n'a pas besoin de comprendre, elle va comprendre en parlant. Donc, faites attention, mesdames, de ne pas pousser votre mari à trop parler quand il va dans la caverne. Une grand-maman indienne qui disait à ses petits-enfants quand tu te maries, là, va pas chercher l'homme dans la caverne parce que ça va être un dragon qui va sortir. Il faut pas le forcer. Okay? Donc, la femme se sent aimée quand son mari prend soin d'elle et la réconforte. Et l'homme, il veut qu'on ait besoin de lui, il demande pas, il aime ça pour prendre soin, protéger, réconforter. Donc, Dieu a bien fait les choses. La femme a besoin d'être réconfortée, qu'on prenne soin d'elle, qu'on la protège. Et l'homme, lui, il a besoin de protéger, de réconforter, de fortifier. Donc, je laisse André pour la discussion et je vais revenir pour la conclusion.
Donc, c'est au tour des dames. Comment est-ce que, mesdames, vous réagissez devant l'affirmation que Yvan a mentionnée? J'aimerais vous donner un moyen pour que votre mari ait plus de facilité à vous aimer. Déjà, ça frappe dur, là. Deux points. Dieu a créé la femme avec un besoin d'être aimé et Dieu a créé l'homme avec un besoin d'être admiré. Comment que vous réagissez, mesdames, à cette affirmation-là? Ah, oui. Vas-y, tu peux te rapprocher et puis nous parler fort. Rappelle-moi encore ton nom. Paulette. Mm-hmm. OK. C'est pas les mêmes critères que toi, mais... Oui. Oui.
Quand moi j'ai
du
temps, je le fais comme moi j'aime.
Oui. Parce qu'il y a besoin d'être admiré. Donc, si on le critique trop, ben là, ça l'encourage pas. Donc, il devient plus passif.
Oui, lui dit des mots d'encouragement.
Oui.
Parlez-moi, parce que nous, les femmes, on est au début, là. Je parle
comme ça. OK. Merci beaucoup. Une autre dame qui aimerait... Martine? Non. Oui, une autre dame qui aimerait... confirmer ou dire quelque chose? Non, c'est bon. Croyez-vous qu'il soit possible d'aider votre mari en essayant de l'améliorer? C'est possible de... Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais très, très jeune, là, nouveau croyant, on était à l'autre église, là, dans une école au high school. On faisait l'église là. Et puis, il y avait une jeune fille qui m'a dit, ben, on a un premier rendez-vous dans un resto. Fait que j'étais là. Là, durant le repas, elle me sort une liste. Ouais. Elle avait tout pris la peine d'écrire tous les défauts que j'avais. Elle avait une liste! Moi, je l'ai laissé aller jusqu'au bout. C'était quelque chose, là. Mon premier rendez-vous. Premier rendez-vous, ça a été le premier rendez-vous et c'était le dernier aussi. Ah, je t'ai découragé complètement. Mais elle avait du culot pareil. Toute une liste. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? À changer d'église après. Ouais. Oui. Anne n'était pas. Oh, Anne, elle a entendu. Mais non, Anne est plus. Elle y va petit. Tu sais. Des fois, elle me fait des petites listes, mais c'est pas une liste de longue. Que petites affaires. Elle me laisse. J'ai l'impression, ça donne cette impression-là. Mais il y a toujours des petites affaires, André, ça. Des petites pistes.
La patience et la douceur. Oui. Et l'amour.
Oui. Bien, en fait, un peu comme on aimerait que nous autres être parlés. Est-ce qu'on aimerait ça, nous autres, recevoir une grosse liste?
Que mon but ce matin, c'était que vous soyez plus naturellement attirés l'un vers l'autre. Que mon but ce matin, c'était que vous soyez plus naturellement attirés l'un vers l'autre. Donc, quand on comprend les besoins de chacun, Des fois, juste une question de connaissance, des fois, c'est plus facile. Et ça permet que la flamme brûle plus fort quand on comprend les besoins de l'autre. Et comme si votre épouse sait qu'elle est spéciale pour vous, messieurs, elle va être portée plus à vous encourager, à vous admirer. Et si elle vous admire, votre amour pour elle va augmenter. Une personne qui vous encourage, vous êtes portée à être dans sa présence si elle l'aimait. Donc, je t'aime, tu m'encourages, tu m'admires, si elle l'aimait. Donc, je t'aime, tu m'encourages, tu m'admires, m'encourages, je t'aime. Donc, c'est pas un cercle vicieux, mais un cercle merveilleux. Et je crois qu'on doit admettre devant le Seigneur notre incapacité à mettre ça en pratique. Et c'est beau ce que je vous ai dit, c'est ça a de l'allure, je crois, la façon que Dieu nous a créés, mais on est des êtres imparfaits, pécheurs, et on a besoin de l'intervention de Jésus dans notre vie pour le faire. Il y a seulement lui qui va le faire, parce que de nous-mêmes, on est orgueilleux, entêtés. Si on a été blessé, on peut avoir de l'amertume. Donc, on n'est pas facile. On est des bébêtes compliquées. Okay? Donc, on a vraiment besoin du Seigneur Jésus pour faire le ménage, pour nous éclairer par son esprit, pour qu'on comprenne des choses dans la prière, discuter ensemble, demander à Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, votre mari, madame, vous ne voyez pas de qualité. Demandez à Jésus qu'il vous en montre les qualités. Même chose pour messieurs. Demandez-lui, qu'est-ce que je peux faire que ma femme se sente aimée? Parce qu'on est tellement maladroit. Et demandons au Seigneur Jésus de nous aider. Donc, merci pour votre attention. Et je vais laisser Michel terminer par une prière. Merci beaucoup.
Alors, merci Yvan et André pour cette belle présentation. Et le temps passe beaucoup. J'aurais aimé prier pour chacun de vous, là, chacun, mais c'est un petit peu plus difficile. Mais lorsqu'on va prier, parce qu'on a appris beaucoup de choses, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui que je vais mettre en application immédiatement, mais que j'arrive tantôt à la maison parce qu'elle n'est pas ici. Fait qu'elle va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Yvan nous a appris beaucoup de choses. Et puis, et j'aime aussi l'allocution, le témoignage de Benoît, parce qu'on a vécu la même chose. Ma femme, juste pour vous dire, ce qu'elle me disait il y a plusieurs années, j'attachais pas trop d'importance à ça. Et bien souvent, elle vivait des choses que moi, je mettais... c'est pas grave. Là. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'elle ne me parlait plus. Son cœur était fermé. Et on a commencé à faire ça le matin. Le soir, je ne suis pas parlable. Mais le matin, c'était à tête reposée. Et de plus en plus, on boit une cafetière de 12 tasses de café parce que ça en prendrait une de 24 tasses parce qu'on ne termine plus. On est à la retraite, fait que c'est comme plus facile. Mais c'est tellement enrichissant de faire ça. Puis je vous encourage à le faire, ceux qui sont capables. Si vous n'êtes pas capable le matin, faites-le l'après-midi ou le soir, ou dans la nuit. Mais faites-le. Donc, on va prier. Et dans vos têtes, dans vos cœurs, si vous avez des requêtes de couple, pendant qu'on va prier, présentez-les au Seigneur. Présentez-le, je vous assure qu'il va vous répondre. Et il y a des choses qui vont probablement changer. Alors, on va se courber ensemble. Notre Père, Père dans les cieux, qui nous a créés, hommes et femmes, pour être ensemble. On veut te remettre, Seigneur, chacune de nos vies, chacun de nos couples, Seigneur, qui peut-être au cours des années se sont désagrégés ou se sont éloignés un petit peu l'un de l'autre ou se sont éloignés de toi, Seigneur. Alors, je te prie, Éternel, que tu puisses nous raviver dans nos cœurs, remettre la vie dans notre couple, remettre l'amour que nous avions au tout début. Et Seigneur, qu'en tant qu'homme, on soit capable de laisser l'orgueil de côté, et d'être capable, Seigneur, de vraiment se libérer de notre cœur pour redonner nos sentiments à notre épouse, que ce soit en parole ou en action, Seigneur, parce que c'est elle que tu nous as donnée dès le début. La parole nous dit de ne pas s'éloigner de la femme de ta jeunesse. Seigneur, c'est important. Même après les années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Seigneur, nous avons à vivre des changements dans nos vies. Alors, aide-nous, Seigneur, à pouvoir être capable de vivre ces changements-là. Et que tu puisses, Seigneur, donner à nos femmes d'être une perle, comme tu le dis dans ta parole, une perle, et qu'on puisse le voir, Seigneur, ensemble. Que je puisse voir ma femme comme une perle. Et que la femme puisse voir son homme comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour cette Église. Merci pour tous ces couples qui sont ici et pour les autres qui ne sont pas ici, que tu puisses, Seigneur, raviver tout cela. Parce que c'est une Église, une belle Église, une bonne Église part toujours par la famille, par le couple, Seigneur. Alors, je veux te remercier pour tout et pour ce que tu vas faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Père, on te prie et tout le monde dit Amen. Merci pour votre participation et on vous laisse aller raviver votre couple toute la semaine. Amen.